une page juive de Kiddushin.
Deux fois Mishnah
Chet. On commence la Mishnah Chet. La Mishnah Chet, oui, elle parle toujours de suite à ce qu'on a étudié dans la Mishnah Zayin, de quelle mitzvot les femmes ont l'obligation et de quelle mitzvot les femmes sont quittes. Donc le principe, de manière générale, on a dit que toutes les mitzvot qui est positives qui dépendent du temps, les femmes en sont exemptées. D'accord. Donc suite à ça, hein, notre Mishnah, elle continue maintenant, on va parler des sacrifices. On parlait des sacrifices qui concernent, donc par exemple pour les Kohanim, qui concernent que les hommes et qui concernent pas les femmes. On va voir tout de suite. Asmichot. Il y a certains sacrifices dans lesquels la Torah nous dit qu'avant de donner le sacrifice, il faut mettre la main sur le sacrifice. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est notamment valable pour le korban de Ola. Si quelqu'un a envie d'amener un sacrifice à Dieu, pour le remercier, comme ça. Pas parce qu'il a fauté, pas parce qu'il a eu un miracle, il veut remercier Akadosh Baruch Hu, comme ça. Donc il amène un sacrifice Ola. On a une mitzvah dans le sacrifice de Ola. Chut, s'il vous plaît. On a une mitzvah dans le sacrifice de Ola, que avant d'offrir le sacrifice au Beit HaMikdash, on doit faire ce qu'on appelle smicha. C'est quoi smicha? Ça veut dire poser ses deux mains, comme ça. Poser ses deux mains sur le sacrifice, sur la tête du sacrifice, et appuyer très fortement.
Avec comme ça, là?
Comme ça. Comme ça, ou bien même si c'est pas comme ça, mais en tout cas les deux mains. Dans les faits, on le fait comme ça. Les deux mains, on les pose sur le sacrifice. Alors, ça c'est écrit donc Vesamar Yado al Rosh Haola.
Donc bien entendu. C'est la même chose qu'on fait pour les rabbins, c'est le même mot.
Oui, bien sûr, c'est le même mot. D'accord. Donc, c'est pas seulement que dans le sacrifice de Hola, c'est dans la majorité des sacrifices, que ce soit des sacrifices qu'on amène en tant que Chova, c'est-à-dire en tant qu'obligation, parce qu'on a eu un miracle ou parce qu'on a fait une faute, ou que ce soit les sacrifices qu'on amène en tant que Nedava, c'est-à-dire c'est un cadeau, comme ce que je vous ai dit, comme le corban de Ola. J'amène un sacrifice Ola à Dieu, c'est comme ça, c'est pas pour, c'est pas parce que je dois quelque chose, c'est par plaisir. Parce que j'ai envie de m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Donc tous ces sacrifices-là ont besoin, avant de les offrir, le propriétaire du sacrifice, pas le Kohen, le propriétaire du sacrifice, doit poser ses deux mains sur la tête du sacrifice. C'est comme ça, c'est une procédure. Sauf, il y a deux sacrifices dans lesquels on ne le fait pas, c'est le Bechor, le premier-né de l'animal, dans lequel on ne fait pas ça. Et le deuxième sacrifice, c'est le deuxième, c'est le Pessah. Donc le sacrifice pascal, pareil. Le propriétaire n'a pas besoin de poser sa main dessus. Et le troisième, c'est Maaser. Vous savez très bien que il y avait le Maaser des animaux. C'est que chaque année, on faisait passer les animaux sous une barrière. Et dès que chaque dixième qui passait, il allait au Beit HaMikdash. Il allait à Kadosh Baruch Hu. Donc ce Maaser-là, à Assyri et Kodesh, lui aussi, le propriétaire n'a pas besoin de mettre sa main dessus. Alors,
pourquoi?
Pardon?
Parce que c'est une mitzvah exacte.
Non, c'est parce
que... Ça ne dépend pas de lui.
Pas du tout. Non, il n'y a pas de raison. C'est parce que partout la Torah dit qu'il faut le faire, et dans ces trois-là, la Torah n'a pas dit qu'il faut le faire. C'est un terme très fréquent dans la Torah.
Pas pourquoi elle a
fait ça? Vesamar yado al rosh haola. Non, alors c'est pas pourquoi. Demandez une question plus simple. Demandez pourquoi, c'est quoi le concept de mettre la main dessus? À quoi ça sert?
On dit ça.
Pourquoi?
Mais c'est exactement comme quand on fait les caparottes.
Non, c'est pas ça. C'est une erreur. Parce qu'on dit qu'on le fait sur tous les sacrifices, même un sacrifice qui est Ola. C'est des raisons à Picabala, il n'y a pas de vraies raisons. Parce qu'on peut pas, quand c'est un sacrifice qui est Ola, j'ai rien à faire passer, je donne un sacrifice comme ça à Kadosh Baruch Hu.
Oui, mais c'est comme ça.
Non, il n'y a pas de raison de mettre la main dessus. Il n'y a pas de raison. C'est à Picabala, la smicha. Il y a des sacrifices sur lesquels on comprend.
Quelque chose de soi.
Non, il y a des sacrifices comme le khatat, on comprend. Le khatat, c'est quand j'ai fait une faute, je comprends comment je transmets, si on peut dire, entre une énergie, je transmets mes fautes à l'animal. Et encore. Quand? Parce que Maïmonide, il dit que le sacrifice, il vient pas pour pardonner.
Oui.
Le sacrifice, attendez, le sacrifice, il vient simplement pour qu'une fois que j'ai déjà fait ma teshuva et que j'ai déjà été pardonné, le sacrifice, il vient pour que je sois chéri aux yeux de Dieu comme avant le sacrifice, comme avant la faute. C'est très spécial, c'est pour ça que je vous dis, le concept de smicha, de mettre la main, c'est... La Torah ne donne pas de raison. En tout cas, dans tous les sacrifices, la Torah nous dit tu devras mettre la main. Dans ces trois-là, la Torah nous dit qu'il ne faut pas le faire. Donc on revient à notre sujet. S'il vous plaît. Non, j'ai pas du tout, on ne transmet pas.
Moshe, il a bien posé sa main sur les...
C'est biscuit. Bon, on va pas essayer de réfléchir. C'est pas pour transmettre. Il y a d'autres sacrifices, mais ça, c'est pas pour transmettre. Donc, pour revenir à notre sujet, les hommes ont l'obligation de le faire et pas les femmes. C'est-à-dire, si une femme maintenant, elle vient au Beit HaMikdash, elle dit je veux offrir un sacrifice Ola. Elle peut ou elle peut pas? Bien sûr, elle peut, et pas de problème. Au contraire, un homme, une femme, il peut. Mais la femme n'a pas l'obligation de smicha. Tout ça, c'était sur le premier mot de la Mishnah. Donc, asmichot. les smichot, donc si on l'a expliqué, ça veut dire, je suis curieux de savoir comment traduire ça ici.
La position des mains.
La position des mains, très bien. Imposition, je connais.
Il trouve bien les mots, hein, je trouve, dans les traductions. Ouais. Hein. Parce que c'est pas évident de travailler. L'imposition des mains. C'est ça.
C'est une vieille traduction, ça.
Donc, asmichot, veak mitzot.
C'est de la Bible, hein.
D'accord.
C'est chrétien.
Imposer les mains.
C'est bon. Pardon. Alors, veat, non, le deuxième mot, c'est veat nufot. D'accord. C'est quoi veat nufa? Veat nufa, c'est le balancement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on devait, c'était quoi le balancement? Le balancement, c'était qu'on devait quand on dépeçait l'animal, on enlevait certains membres de l'animal, notamment la poitrine, etc. D'accord? Et le propriétaire, celui à qui l'animal appartenait, devait prendre ces membres-là sur sa main. Et le Kohen mettait sa main en dessous de la main du propriétaire et les deux ils levaient ensemble. Comme ça, c'est une procédure. Encore une fois. Et ça, c'est une obligation qui est que sur les hommes et pas sur les femmes. C'est-à-dire la femme peut offrir le sacrifice, mais ce détail-là, elle n'a pas besoin de le faire. Ça, c'est la deuxième chose. Vea Hagashot. Quand Hagashot, donc c'est quand une personne amenait un sacrifice mincha. Quand un des sacrifices qu'on amenait, c'était une offrande à Kadosh Baruch Hu. Mincha. Quand mincha, c'est pas forcément... pareil, mincha, ça rentre dans la catégorie des sacrifices qu'on amène en tant que nedava. C'est un cadeau qu'on donne à Kadosh Baruch Hu. Mincha. Donc quand on amène un sacrifice de mincha, comment ça se passait? Donc, à part l'animal... ça pouvait être ou un animal ou des oiseaux. Mais à part l'animal ou les oiseaux, il y avait aussi une offrande qui a été faite avec de la farine. Il y avait de la farine, il y avait de l'huile, il y avait, etc. D'accord? Ça dépendait des sacrifices. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, on préparait dans un ustensile, dans le Beth Amikdash même. Et ensuite, on l'amenait au Kohen. Donc, il y avait une procédure, pareil. C'est-à-dire, la personne, imaginons que c'est moi le propriétaire, je prépare ça dans le Beth Amikdash, ensuite je l'amène au Kohen, c'est un rituel, je l'amène au Kohen, et ensuite le Kohen y prend, et il amène cette offrande-là devant le Mizbeach. Et où il le mettait? Il devait placer cette offrande-là, il devait la déposer dans le coin Maharavit Deromit. Ça veut dire ouest, sud-ouest. D'accord? Sud-ouest du Mizbeach. C'est comme ça. D'accord? Ça c'est la Torah qui dit, il faut faire exactement comme ça. Donc, l'obligation n'est que sur le Kohen, mais pas sur la Kohenette. D'accord? Pas sur la femme du Kohen. C'est-à-dire que bien que non, pourquoi? D'où on sait ça? Parce que la Torah, elle dit, Akrev Ota Bene Aaron. Elle dit, les enfants de Aaron. Les enfants en hébreu, ça veut dire les garçons. Les garçons de Aaron, c'est eux qui devront le faire. C'est-à-dire, comme je vous dis, il y a deux étapes. Moi, je donne mon offrande au Kohen, et le Kohen va l'amener au Mizbeach. Qui peut le faire? Seulement les garçons et pas les filles. C'est quoi le verset, il dit comme ça. Ensuite, quatrième chose, vak mitzot. D'accord? Vak mitzot. Comment il traduit mitzot ici?
La prise d'une poignée de farine.
Non, ça on l'a déjà dit.
L'action de brûler.
La prise d'une poignée de farine. Non, c'est ça, c'est la prise d'une poignée de farine. Donc la prise d'une poignée de farine, d'accord, c'était quoi? Ça c'était que, quand on parle toujours de la mincha, du mincha toujours que je viens de dire, le Kohen, quand on lui amenait le sacrifice, il devait prendre avec sa main, pas avec un ustensile, d'accord, il devait prendre avec sa main de la farine et la rajouter sur cette mincha, sur cette omelette, enfin appelez-la comme vous voulez. D'accord, donc ça veut dire comme ça, moi le propriétaire j'amène de l'huile, j'amène l'évona, donc l'évona ça veut dire c'est une sorte d'encens, d'accord, de l'huile, l'évona, et le Kohen il vient, il prend avec sa main, rien d'autre, avec sa main il prend de la farine et il rajoute dessus. C'est comme ça. C'est le Kohen qui doit le faire. Pareil. Je suppose qu'il y avait certainement des femmes qui se retrouvaient aussi au Beth Amikdash. Une femme d'un Kohen, elle peut le faire? Non. Elle peut pas le faire. Parce que c'est ça, c'est que les hommes qui peuvent le faire. C'est écrit encore une fois, Bnei Aaron. Bnei Aaron, c'est les garçons.
Dans la Sota, c'est ça aussi.
Quand? Vea Aktarot. Oui, il y a plusieurs mintras. Mintra de Sota, Mintra de Knaot. Il y a plusieurs types de mintras. Il y a aussi le Mintra de Kado. D'accord? Vea Aktarot. Vea Aktarot, c'est quoi? Donc Aktarot, c'est dans les deux étapes que j'ai dit jusqu'à maintenant. Ça veut dire brûler. Qu'est-ce qu'on devait brûler? On devait brûler ou bien, vous vous rappelez, je vous ai dit, on devait enlever certains membres de l'animal, le propriétaire les met dans sa main et le Kohen met la main en dessous de lui. Et les deux, ils lèvent ensemble. Ça, c'était une chose qu'on a dit tout à l'heure. Et à part ça, on a dit aussi le fait que le Kohen met de la farine dans la mincha. D'accord? Dans cette sorte d'omelette. Donc c'est deux étapes que je viens de dire. C'est que les hommes qui peuvent le faire, donc après il l'amène au Mizbeach, et au Mizbeach il faut le faire brûler, hein, c'est l'autel, c'est là pour brûler. Qui c'est qui peut l'amener? C'est qu'un homme et pas une femme. D'accord? Donc vous avez remarqué qu'on n'a pas du tout parlé ici de problèmes de tsniout, etc. Parce que c'est pas pour ça que c'est interdit. On aurait pu imaginer qu'on aurait eu des services d'hommes et des services de femmes. Il n'y a pas de problème avec ça. D'accord ? On aurait pu imaginer ça. La seule raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est parce que la Torah a dit que Bnei Aaron et pas Bnot Aaron. Les enfants d'Aaron, les garçons et pas les filles. La Torah n'a pas donné de raison. Ensuite, elle continue. Elle dit Veha Melikot. D'accord ? Alors, c'est quoi Melikot ?
Malak, c'est la nuque.
Donc, c'est quoi Melikot ? C'est... Bon, ici, j'ai eu traduit par tordre le cou, c'est ça ?
Ouais.
Alors, je vous explique qu'est-ce que c'est Melika. Melika, les Kohanim, ils avaient toujours un ongle. De manière générale, c'était le pouce qui n'était pas coupé. Ils coupaient pas l'ongle.
Tranche.
Et quand on leur amenait un sacrifice, quand on leur amenait un sacrifice qui était avec un oiseau, d'accord, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils prenaient le... Donc, ils étaient entraînés pour ça. Ils prenaient l'oiseau, ils lui tordaient. Quand on dit tordaient, ça veut dire ils étendaient le cou. Et avec leur ongle, ils faisaient la shrita. Pas de couteau. Pareil.
Les moelles aussi, ils ont l'ongle. Les moelles aussi.
Ils font avec l'ongle comme ça ?
Ah, ils ont un ongle qui est long. Les moelles. Je sais pas.
Non, non,
ouais.
Non, non, les moelles, ils vont avec la lame.
Non, mais...
C'est vrai, il a raison. Oui, il a raison.
Il y a beaucoup de moelles.
Ah, le moelle pour la prière.
C'est pour
la prière, ouais, exactement.
D'après ce que j'ai compris.
Pour la prière.
C'est pour le prépuce. Le prépuce, voilà, pour la tournée.
Il s'appelle la prière. La prière.
Tiens, mais il me fait vachement mal.
Donc.
Horrible.
Cette étape-là, donc de faire la shrita avec l'ongle, ça s'appelle Melika.
On a un grand problème sur la shrita d'aujourd'hui par rapport à ça. Alors c'était caché.
Vers Azaot, bien sûr, oui, c'est parce que ça. Mais ça, on pouvait le faire que dans le Beth Amikdash.
Que les oiseaux.
Que dans le Beth Amikdash et que pour les oiseaux, bien sûr, oui. Allez vous amuser à faire ça à un animal.
Un taureau, par exemple.
Donc, Véa Mlikot, ne bougez surtout pas. Véa Azaot.
Et encore, même une poule, tu peux pas. Il faut vraiment que ce soit
un petit mouton.
Non, les Kohanim.
Même aux qui ont un nom pas mal.
Les Kohanim, ils étaient entraînés pour ça. Ils avaient 5 ans d'entraînement. Véa Azaot.
Apparemment, là, il bat une jeune colombe.
Véa Azaot.
C'est une tourtereine, une jeune colombe. C'est vraiment des petits oiseaux.
S'il traduit comme il veut, moi je dis qu'on pouvait faire ça avec des grands animaux.
Des grands animaux.
Ouais, des grands oiseaux.
Des grands oiseaux.
Donc, vers Azaot, c'est quoi Azaot ? Azaot, c'est le fait de verser le sang, d'accord ? Verser le sang, asperger, d'accord ? Les aspersions du sang sur le misbéar. D'accord ? Donc pareil, les aspersions, devaient asperger du sang sur le misbéar. Ça aussi, la Gemara nous dit que c'est écrit Bnei Aaron, d'accord ? C'est les enfants de Aaron, donc c'est que les hommes qui peuvent le faire et pas les femmes. Vous voyez ? Vers Kabbalot. Kabbalot, c'est quoi ? C'est une autre procédure. C'était très important. Très important. C'est quand on faisait la shrita à l'animal. À l'animal. Il y avait un Kohen. Donc la shrita était kachère. Je parle pas d'un oiseau, je parle d'un animal. La shrita était kshera bezar. Ça veut dire que même un étranger, même quelqu'un qui n'est pas Kohen, pouvait faire la shrita. Kachère. Dans les faits, c'est en général, c'est le Kohanim qui le faisait. Mais si quelqu'un il veut faire lui la shrita, il peut. Par contre, il y a une chose que c'est obligé de faire par les Kohanim. C'est quoi ? C'est celui qui se tient avec un ustensile en dessous de l'endroit de la shrita et qui va réceptionner le sang par lequel on dit que la neshama de l'animal va sortir.
D'accord ?
Ça veut dire que c'est le sang du début. Le sang qui va couler, c'est ce sang-là par lequel on dit que c'est avec ça que la neshama de l'animal va sortir.
Mais le
sang-là,
c'est que ça gicle,
bien sûr. C'est pour ça qu'il fallait être un Kohen pour le faire. C'était très dur. Ils avaient les techniques. D'accord ? Ils avaient les techniques d'attraper, etc. De manière à ce qu'il fallait prendre le premier sang. On fait ce qu'on peut, bien sûr.
Ouais.
En passant, sachez que quand la Gemara nous raconte comment ça se passait le Korban Pessah, on nous raconte que celui qui rentrait au Beth Amikdash, en général, et surtout le jour de la veille de Pessah,
il voyait ça.
Il y avait du sang partout. C'était une boucherie, hein.
Ouais, j'ai rien
dit. Ah, il me dit, c'était horrible.
Tu vois comment
ça. Oui, jusqu'au genou.
Plutôt un abattoir qu'une boucherie. Quand c'est dans une boucherie, tu rentres et qu'il y a du sang partout. Il paraît qu'il se baignait dedans.
Tu viens, elle est bonne.
Ils avaient une technique pour évacuer. Comment ils faisaient pour évacuer tout ce sang? Le lendemain matin, vous revenez, tout était propre.
Il y
a une source. Non, je vais vous expliquer, c'est très simple. Il y avait une source en dessous, une source qui coulait en dessous le Beth Amikdash.
Il y a toujours cette source.
Et qu'est-ce qu'ils faisaient ?
Ah,
ils ont fait une technique comme ça. À côté du Misbéar, il y avait un endroit dans lequel ils plantaient un siphon, c'est un gros morceau de bois, pour bloquer la source. Si tu bloques la source, qu'est-ce qui se passe ? L'eau, elle monte. L'eau, elle monte, ils remplissaient tout le Beth Amikdash d'eau, et c'était du marbre. Hein. c'était du marbre, il remplit tout le bétamine, il remplit ses dos, et ensuite après on enlevait le, on enlevait le, ce morceau de bois, d'accord,
comme le lavabo.
Et tout l'eau, exactement, comme tout le lavabo, et tout repartait.
Et tout partait dans la ville, et tout, c'était
tout. Non, mais il parle de l'eau rouge de la...
C'est du marbre, le sang c'est visqueux, normalement, si c'était petit, il aurait dû tomber.
Normalement
il aurait dû tomber.
Oui, c'est vrai.
Ça coagule. Et même les mouches.
Non,
mais il me dit qu'il n'y avait pas de mouches.
Bien sûr, c'est un miracle. Et en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que non, ce qui est intéressant, c'est qu'on revenait le lendemain matin en Bétamigdash, c'était nickel. C'était propre, comme si on vient de faire le ménage. Donc, ça c'était à Azaot, verser le sang.
Les experts, ils ne trouveront rien.
Non, excusez-moi, là j'étais à Kabbalot.
Les experts, c'est un série qui est à la télé, de types qui arrivent à trouver, quand il y a un meurtre, machin, ils arrivent à trouver des indices dont de, en mettant des trucs impossibles.
Ils prennent une potion,
ils arrivent à trouver des trucs, alors le mec...
Donc, comme je disais, la shrita, elle peut être faite même par un zar, même par quelqu'un qui n'est pas Cohen. Mais la Kabbalah, c'est très important. D'accord ? La Kabbalah, c'est-à-dire recevoir le sang, réceptionner le sang de l'animal, ça c'est kasher que par un Cohen. Et encore une fois, que par un Cohen et pas par une Cohenette. Ça veut dire que par un garçon et pas par une femme. Va Kabbalot. Donc, Noagot Banashim, Velo Banashim. Tout ce qu'on vient de dire, qui sont les étapes principales dans le Beit HaMikdash, d'accord ? Tout ça, Noagot Banashim, Velo Banashim, ça se fait que par les hommes et pas par les femmes. Ça veut dire que tout le reste des travaux, ça veut dire que, comprenez par ici, que tout le reste des travaux du Beit HaMikdash pouvait être fait par des femmes. Il y avait d'autres travaux dans le Beit HaMikdash. D'accord. On pouvait avoir des travaux de nettoyage, on pouvait avoir des travaux de manutention, on pouvait avoir beaucoup de choses.
Vraiment le nettoyage qu'on donne aux femmes, c'est tout.
Donc,
repassage.
Tout ça,
le repassage.
Tous les autres travaux du Beit HaMikdash.
Charmant,
d'ailleurs, il y avait des femmes au Beit HaMikdash. Bon, aujourd'hui, c'est marrant, parce qu'on a les photos, enfin, on a les dessins qui vous montrent du Beit HaMikdash, il y a que des hommes.
Il y avait des femmes à barbe,
alors qu'il y avait des femmes au Beit HaMikdash qui travaillaient.
C'est sûr qu'il y avait des femmes. C'était sniout, mais il y avait des femmes. D'accord? Il y avait certainement des gardes, etc. Mais voilà, ça c'est la seule chose qu'il n'y a que les hommes que faire et pas les femmes. Tout le reste, les femmes aussi peuvent faire. Donc, Noagot Banashim, Velo Banashim, Chutz, Mimin Chastota ou Nézira. Donc tout ce qu'on a dit.
Nézira.
D'accord? Voilà. Tout ce qu'on a dit, les hommes, que uniquement les hommes peuvent le faire et pas les femmes, sauf la mincha de la Sota. Vous savez que la Sota, c'est la femme qui est suspectée par son mari d'adultère. Donc dans ce cas-là, elle devait amener un sacrifice au Beit HaMikdash. La mincha, ce qu'on appelle la mincha de la Sota. Dans la mincha de la Sota, d'accord? Là c'était spécial. Pourquoi c'était spécial? Parce que chez En Menifot. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit qu'on enlevait certains membres de l'animal. Et le propriétaire devait le prendre dans ses mains, et le Kohen met les mains en dessous, et il le lève ensemble. Ça, en général, on a dit, c'est que les hommes, pas les femmes. La Sota, elle le fait avec le Kohen. Ça, c'est premièrement. D'accord? Et, ou Nézira. Pareil aussi, la Nézira. Donc là, c'est quoi la Nézira? Une femme qui décide de devenir Nazir. Comment il traduit Nazir?
Vœu d'abstinence.
Comment?
Vœu d'abstinence.
Vœu d'abstinence. Ouais, bon, c'est pas une traduction, ça.
Si, c'est...
Une explication.
Non, c'est, on dit, l'expression vœu d'abstinence, c'est ça, okay. C'est...
Donc une femme qui a fait un vœu d'abstinence, pareil, elle amène un sacrifice. Dès que son vœu se finit, par exemple, elle dit je fais pour 30 jours, au bout des 30 jours, elle amène un sacrifice. Si elle a réussi à tenir, parce que
qu'est-ce
des fois...
Qu'est-ce qu'on fait des cheveux de la femme?
qui a parlé des cheveux?
Ben parce que normalement, dans le sacrifice...
Dépend, il y a plein de sortes de nazirs.
On rase la tête.
Il y a plein de sortes de nazirs, monsieur Bismuth. Il y a des nazirs pour les cheveux, des nazirs pour beaucoup de choses. Donc là, une femme, elle peut être nazir, d'accord? Elle décide d'être nazir. Dès qu'elle finit le temps... donc le temps qu'elle avait prévu, elle dit par exemple pour 30 jours, pour un mois, pour un an, etc. La femme devra amener un corban.
Si elle tient pas,
si elle tient pas, il faut recommencer à chaque fois. Il y a des gens qui étaient toute leur vie en train de recommencer.
C'est vrai.
Bah, bien sûr.
Il y en a qui font Nazir à vie, qui ne mettent pas de date.
Il y a des gens qui prennent Nazir à vie, ouais. Mais bon, en général, les
Chachamim... Shmuel, ils étaient Nazir à vie.
Shimshon, c'était Nazir à vie.
Shmuel.
En général, les Chachamim, ils déconseillent ça. Les Chachamim, ils s'arrangeaient pour bloquer.
Il n'a pas vécu longtemps,
Shimshon. Il y a un Nazir à vie à Jérusalem.
Ouais.
C'est quelques années, il était roux en plus.
Parce que Nazir Aviv doit commencer depuis sa naissance, ça veut dire qu'il faut que ouais. Sa mère déjà a commencé à le préserver.
Non,
il faut, parce que
non,
le Nazir, c'est très
vite.
Voilà. Non mais attendez, le Nazir, il peut pas sortir de chez lui. Parce que le Nazir, il peut pas devenir impur. C'est très spécial, le Nazir.
Bah, c'est-à-dire qu'il reste Nazir tout le temps. D'abord, il peut même pas sortir.
Ça dépend. S'il dit qu'il est Nazir Aviv, oui.
Non, le problème, moi, j'avais...
J'ai entendu.
C'est interdit, non, maintenant.
D'accord. C'est pas interdit, non.
Il peut pas sortir du Nazir, il n'y a plus de temple. Donc, il reste Nazir. Il peut pas sortir.
J'ai entendu qu'il y a à Jérusalem, à Jérusalem, dans la vieille ville, il y a des familles qui ont gardé des enfants comme ça depuis petit, d'accord, des enfants des Kohanim, comme ça, ils disent que dès que Machar viendra, leurs enfants seront prêts tout de suite pour servir au Beth Amikdash. Donc c'est des enfants, ils font attention où ils les font passer, etc. C'est des enfants qui sont jamais devenus impurs.
Une ville, c'est la
vieille ville
dans le
quartier arabe. Ah, Khazak, il paraît qu'il y a une yeshiva, il y a tout un groupe comme ça.
Excuse-moi, c'est la yeshiva de celui qui était... il est français. Comment il s'appelle, je vais trouver son nom. Il est en plein... Ben c'est là où il y a eu la fusillade la dernière fois.
Non, ah, voilà, non, je vais parler des...
Non, pas Rav Menaché.
Le Merkaz.
Il leur enseigne, dans cette yeshiva, il enseigne à tous les... c'est que des Kohanim, et il leur enseigne toutes les lois des Kohanim.
Non, ça c'est... Oui, d'accord, non, ça c'est le Machon Amikdash. Non, c'est pas ça que je parle. Moi, je parle des Nazirs.
C'est qu'on n'a pas le temple, de toute façon.
Oui, d'accord.
Donc on ne peut pas sortir du Nazir, même si on fait 15 jours.
Normalement, aujourd'hui, le seul Nazir qui peut exister, c'est le Nazir à vie. Normalement, parce qu'un nazir, il a besoin d'amener un sacrifice à la fin. Tant qu'il n'a pas amené le sacrifice, il sort pas de son nazir.
Il réglera le problème du coin.
Non, c'est aujourd'hui, quelqu'un qui devient nazir, par exemple, si quelqu'un il vient, il dit je suis nazir pour 30 jours, les chachamim lui font sauter son nazir. Il commence même pas un jour. Pourquoi? Parce que lui, quand il a fait le néder, il a dit je veux être nazir pour 30 jours, dans sa tête, c'est au bout de 30 jours, je m'arrête. On va dire, mais au bout de 30 jours, tu peux pas t'arrêter, parce qu'on est obligé d'amener un sacrifice. Le fameux mintrat nazir, le mintrat du nazir que je viens de dire ici.
Puisqu'aujourd'hui,
il peut plus s'arrêter. C'est pas que plus s'arrêter, c'est que techniquement, au bout de 30 jours, il sera plus nazir, mais il a pas quitté le statut du nazira. Donc c'est très spécial, c'est ça qu'on fait pas.
Ah ouais, vaut mieux qu'il
le seul nazir qui existe aujourd'hui, c'est nazir olam, nazir à vie. Et comme je vous dis, ça existe à Jérusalem, ça. Des gens qui sont depuis qu'ils sont petits, depuis qu'ils sont bébés.
Mais ils sont cognes, ils sont pas nazirs.
Et alors? Bah non, ils sont nazirs aussi.
Non, pardon,
ça veut
dire
que
on est
nazirs. Ça veut dire qu'ils ne deviennent jamais impurs, etc. C'est vraiment des nazirs.
Mais dis-moi, à partir du moment où ils sont bar ou bat mitzvah, ils ont leur mot à dire quand même.
Oui.
Ouais, on m'a collé la ziroud, moi je veux pas.
Oui, ils ont le droit. Ils ont droit de refuser s'ils veulent. Mais seulement le problème d'un nazir olam, c'est qu'il doit être à vie, donc ça doit démarrer depuis qu'il est petit, depuis qu'il est bébé. Mais quand il a 13 ans, il dit je suis pas intéressé, on appelle les chachamim, font sauter le neder.
D'accord.
Mais s'il accepte le neder, ça veut dire qu'il aura tous les 13 ans qu'il a jusqu'à maintenant, il était kasher.
D'accord.
Bon. Alors je continue rapidement avec la Mishnah Tet, d'accord. Puisqu'on a parlé jusqu'à présent, c'est marrant, elle est donc ici, non, mais on a parlé des mitzvot qui sont applicables que pour les hommes et pas pour les femmes, d'accord. Et on a dit qu'il y avait d'autres mitzvot qui étaient applicables pour les hommes et pour les femmes, notamment les mitzvot négatives. Alors, notre Mishnah maintenant, elle va nous parler des mitzvot, des différentes catégories de mitzvot, je finis avec ça. Donc des mitzvot qui peuvent être faites qu'en Israël, et d'autres mitzvot qui peuvent être faites et en Israël et en diaspora. Donc on dit comme ça. Kol mitzvah chez Itluya Ba'am. Toute mitzvah qui dépend de la terre. Ça veut dire quoi? Par exemple, la terouma. Qu'est-ce qu'on prélève dans la terouma? On prélève le produit de la terre. Le maaser. Toutes les mitzvot qu'on a autour de la terre. D'accord? Donc, Ena Noeget et la Baharet. Toutes ces mitzvot-là ne sont praticables qu'en Israël et pas en diaspora. Donc on est clair. D'accord? Ça veut dire que toutes les mitzvot, terouma, maaser, tout. D'accord? Le maaser de la terre, des fruits de la terre. Minatora, c'est applicable qu'en Israël. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui dépend de la terre. Et c'est des mitzvahs que Dieu nous a donné quand on s'apprêtait à rentrer en Eretz Israël. Veshe Nat Pluyabaret, c'est toute mitzvah qui ne dépend pas de la terre, mais qui dépend de l'homme. Par exemple, Tefilin. Par exemple, la Mila. Par exemple, ne pas faire Avodah Zara. Ça, c'est des mitzvahs qui ne dépendent pas de la terre. Des mitzvahs qui dépendent de l'homme. Noeget Ben Baret, Ben Dechutzalaret. Donc c'est toutes ces mitzvahs-là. Ils sont praticables en Israël et en diaspora. Routz, Mina Orla, Vaakilaim. Sauf deux mitzvot. D'accord? Les mitzvot de la mitzvah de Orla. Orla, ça veut dire le fait que les trois premières années d'un arbre fruitier, on n'a pas le droit de manger ses fruits. Ça s'appelle la Orla. D'accord? Donc bien que normalement, ça c'est une obligation d'un terrain. Donc normalement, en dehors de l'Israël, on ne devrait pas avoir l'interdiction. C'est interdit même en diaspora. Ça c'est une première exception. Vaakilaim. C'est quoi qu'il aime? C'est la greffe d'espèces différentes. D'accord? Oui, la greffe d'espèces différentes d'arbres. D'accord? Que là, à ce moment-là, les kilaïm, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est interdit. D'accord? C'est interdit. Donc kilaïm, c'est quoi? C'est interdit, même en dehors des rats d'Israël. Alors en passant, les Kilaïm, ça la Gemara explique que c'est pas interdit par la Torah, mais c'est interdit par les Chachamim. Normalement, en dehors de la diaspora, il n'y a pas l'interdiction de Kilaïm. Il n'y a pas l'interdiction de
greffe. Un fruit, tu peux le réintroduire après ?
Normalement, selon la Torah, il n'y a pas l'interdiction de manger il n'y a pas l'interdiction même de faire, de greffer des fruits en dehors d'Israël. Maintenant, les Chachamim m'ont interdit. Mais les Chachamim m'ont interdit seulement la greffe. Mais manger un fruit qui a été greffé, il n'y a pas l'interdiction.
D'accord.
Mais à condition qu'il soit fait en dehors d'Israël.
C'est intéressant la question qu'il pose.
Mais j'ai dit réintroduire un fruit greffé.
Mais tu reprends le petit arbre que tu as greffé et qui a poussé maintenant.
Tu peux l'amener, il n'y a pas de problème. Ouais.
Tu peux le réintroduire.
Il n'y a pas de problème parce qu'il n'a pas été greffé en Israël. Et il n'a pas été greffé ni en Israël ni par un
Mais souvent ils font ça dans les vignobles. Ils améliorent.
Rabbi Eliezer Omer, Af Mina Chadash. D'accord. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Eliezer, il dit que même l'interdiction, vous savez, l'interdiction de Chadash, on approche, il y aura bientôt Shavuot, il y avait l'interdiction de manger de la nouvelle récolte jusqu'à qu'on amenait une partie de la nouvelle récolte au Beth Amikdash, la fête de Shavuot. Et là, à ce moment-là, toute la nouvelle récolte était permise. Tant qu'on n'avait pas fait cette étape-là, c'était pas permis. Normalement, l'interdiction, on va dire, est que en Israël, parce que ça concerne Israël, ça. Alors, Rabbi Eliezer, il dit, Af Mina Chadash, il dit que l'interdiction est aussi, Mina Chadash, ça veut dire, même en dehors d'Eretz Israël. D'accord? Même en dehors d'Eretz Israël. Dans les endroits qu'on peut amener, techniquement c'est possible d'amener au Beth Amikdash, il faut amener au Beth Amikdash même si on est en dehors d'Eretz Israël. Bien entendu, aujourd'hui ça ne s'applique pas, puisqu'aujourd'hui on n'a plus le Beth Amikdash. On s'arrête ici pour aujourd'hui.